Vous écoutez, on lit pour vous.
Les risques évitables des césariennes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 novembre 2025 dans la presse. Une technique permettant de gagner du temps à la fin d'une césarienne augmente beaucoup les complications pour les femmes. Des milliers d'Américaines et de Canadiennes ont donc des hystérectomies évitables. Un changement est recommandé par un chercheur de l'Université Laval. Au Québec, ça fait près de 20 ans qu'on a recommandé d'abandonner cette technique rapide de fermeture de l'utérus, explique Emmanuel Bugeaud, qui est l'un des deux co-auteurs de la revue de littérature publiée vendredi dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology. Mais ailleurs dans le monde, y compris au Canada, la technique rapide prédomine. Les risques surviennent surtout à une grossesse subséquente. Il peut notamment y avoir une rupture du placenta chez une patiente sur 30. Et un attachement anormal du placenta dans plus d'une patiente sur 20. Ces problèmes entraînent souvent une hystérectomie, en plus de mettre la vie du bébé en danger. Entre le tiers et la moitié des femmes ayant eu une césarienne avec fermeture rapide de l'utérus ont aussi des saignements, de l'endométriose et des douleurs pelviennes. La fermeture rapide de l'utérus dure 2 à 3 minutes, contre 5 à 8 minutes pour la méthode traditionnelle, réintroduite au Québec entre 2005 et 2015. Dans la méthode traditionnelle, élaborée au début du 20e siècle, le gynécologue recoud individuellement chacune des trois couches de l'utérus, explique le Dr Bugeaud. On utilise d'ailleurs le nom « technique en trois plans ». La méthode rapide, introduite dans les années 1970, on recoud les trois couches en même temps. Avec la méthode à un plan, on voit une boursouflure à l'endroit où l'utérus a été recousu. Environ 400 millions de césariennes sont faites chaque décennie dans le monde, ce qui signifie que des millions de femmes ont des hystérectomies qui auraient été évitables avec une fermeture plus lente de l'utérus, selon le Dr Bugeaud. La dernière fois que la pratique a été évaluée au Québec, en 2012, seulement 20 % des césariennes étaient faites avec la technique à un plan. Le problème a été aggravé par la popularité croissante des césariennes, dont le taux a doublé à 27 % au Canada depuis 30 ans, dit le Dr Bugeaud. Le Dr Bugeaud a commencé à travailler sur le sujet lors de sa résidence à Sainte-Justine, dans les années 1990. En 6 mois, on avait eu 3 ou 4 ruptures du placenta. Mon patron m'a demandé de voir pourquoi ça survenait aussi souvent. Il a publié la première étude montrant les dangers de la technique à un plan au début du millénaire. La technique à un plan a été développée dans les années 70 à Dallas, à l'hôpital Parkland, rendu célèbre par la mort de John F. Kennedy. C'était un très gros hôpital qui faisait 15 000 à 20 000 accouchements par année, dit le Dr Bugeaud. Ils ont voulu optimiser les soins. Au Québec, les plus grosses maternités voient 5 000 accouchements par année. L'engouement pour la technique à un plan a été gonflé par un gynécologue israélien, Michael Stark, qui a mis au point dans les années 1990 une technique permettant de diminuer de moitié la durée totale d'une césarienne, de 40 à 20 minutes, dit le Dr Bugeaud. La technique Stark, aussi appelée Misgav Ladash, du nom de l'hôpital où le Dr Stark pratiquait, incluait la fermeture rapide de l'utérus développée à Parkland. Il y a de très bonnes choses dans la technique Stark, mais pas pour ce qui est de la fermeture de l'utérus, dit le Dr Bugeaud. Alors que l'utérus refermé selon la technique à trois plans est prêt à accueillir une autre grossesse 9 mois après l'accouchement, il devient plus fragile avec le temps chez les femmes dont l'utérus a été refermé avec la technique à un plan, selon le Dr Bugeaud. En savoir plus, source MSSS. 28 % proportion de césariennes au Québec en 2023-2024. 32 % proportion de césariennes dans la région au plus haut taux au Québec en 2023-2024, le Bas-Saint-Laurent. 11 % proportion de césariennes dans la région au plus haut taux au Québec en 2023-2024, le Grand Nord. C'était « Les risques évitables des césariennes », un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 novembre 2025 dans la presse.
Faut se parler. En sous-titre, l'avenir ne sera ni improvisé ni pétrolier, il sera durable, coopératif et aligné avec nos valeurs et notre diversité. Ce texte est signé Luc Tousignan qui est citoyen, et publié dans le Devoir du 13 février 2026. On est 6 millions, faut se parler. Plusieurs se souviennent de ce slogan d'une campagne de la brasserie Labatt au milieu des années 1970. Derrière sa simplicité, il portait une invitation profondément civique, se reconnaître, dialoguer, prendre collectivement en charge notre avenir. À l'époque, le Québec vivait une transformation majeure. La Révolution tranquille avait fait émerger une confiance nouvelle, celle d'une société qui se découvrait capable de choisir et d'agir par elle-même. 50 ans plus tard, cette invitation n'a rien perdu de sa pertinence. Le Québec d'aujourd'hui est une société accomplie. Il figure parmi les sociétés les plus égalitaires et les plus sécuritaires au monde, souvent comparées aux pays scandinaves. Sa qualité de vie, sa cohésion sociale et la solidité de ses institutions sont reconnues et bien réelles, et nous avons de quoi en être fiers. À l'échelle mondiale, le Québec se situerait dans la moyenne des États en matière de population et parmi les plus vastes territoires. 7 des 10 pays les plus riches de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, ont une population équivalente ou inférieure à la nôtre. Selon les données de la Banque mondiale, le Québec se classerait au 22e rang des économies avancées de l'OCDE pour le produit intérieur brut réel par habitant, ajusté à la parité du pouvoir d'achat, un rang comparable à celui de nombreuses sociétés prospères et stables. Mais une société ne se résume pas à sa richesse économique. Lorsqu'on tient compte d'indicateurs plus larges, la santé, l'éducation, le bien-être, le Québec se démarque nettement. À l'indice de développement humain, il se situe à un niveau comparable à celui du Canada. À l'indice mondial du bonheur, il ferait même meilleure figure. Selon l'OCDE, le Québec se classe également parmi les sociétés où la qualité de vie est la plus élevée. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils reflètent des choix collectifs clairs. L'investissement dans l'éducation, l'accès universel aux services publics, la solidarité sociale, la coopération et la confiance dans les institutions. Ce modèle appartient à toutes celles et à tous ceux qui vivent au Québec, de toutes origines, francophones, anglophones, autochtones et Premières Nations, allophones, nouveaux arrivants comme citoyens de longue date. L'identité québécoise se construit par la participation, l'engagement et le dialogue. Partout dans le monde, on s'interroge sur la capacité des grands ensembles politiques à répondre aux défis contemporains. Les sociétés à taille humaine démontrent souvent une plus grande agilité, une meilleure reddition de comptes et une proximité accrue avec les citoyens. D'ailleurs, l'Écosse et l'Alberta s'inscrivent aujourd'hui dans ces mêmes réflexions. Pendant ce temps, le Canada fait face à un endettement croissant, à des dédoublements institutionnels coûteux et à une pression accrue sur les services publics, tandis que le poids politique du Québec au sein de la Fédération continue de diminuer. Dans un contexte marqué par l'urgence climatique, les transitions énergétiques et les bouleversements géopolitiques, le statu quo n'est pas une posture neutre. Le Québec dispose d'atouts majeurs, une énergie propre et renouvelable, des ressources stratégiques et une expertise reconnue. Nous devons maintenant démontrer notre capacité de planification à long terme. Nos prédécesseurs l'ont fait lors de la Révolution tranquille, nous pouvons aussi le faire. L'avenir ne sera ni improvisé ni pétrolier. Il sera durable, coopératif et fondé sur des partenariats choisis, alignés avec nos valeurs et notre diversité. Nous avons des choix à faire. Nous sommes à la croisée des chemins. Préserver ce que nous avons construit et décider collectivement de ce que nous voulons devenir exige de l'ouverture, de la lucidité et surtout du dialogue. Nous sommes maintenant plus de 9 millions. 9 millions de voix. Plus que jamais, c'est le temps de se parler. Et c'est sur cette invitation que Luc Tousignant met un terme à son texte d'opinion titré « Faut se parler », publié dans Le Devoir du 13 février 2026.
L'empreinte environnementale insoupçonnée de l'intelligence artificielle générative. Un texte de Sébastien Auger, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Nouveau. L'IA par-ci, l'IA par-là, l'intelligence artificielle était sur toutes les lèvres en 2025 et ce sera encore assurément le cas cette année. Les outils d'IA générative, comme un certain ChatGPT, étaient certes déjà connus, mais les derniers mois ont clairement constitué l'apogée de leur démocratisation. Aussi artificielle soit-elle, l'IA a des impacts environnementaux bien réels. Son utilisation accrue augmente donc son empreinte écologique. Les experts estiment qu'une requête à ChatGPT nécessite au moins 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. À lui seul, le produit phare d'OpenAI attire 800 millions d'utilisateurs et reçoit 18 milliards de requêtes par semaine. Chaque étape du processus menant à la création de ces populaires applications est associée à un coût environnemental élevé. Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, a sonné l'alarme à sa dernière Assemblée générale en décembre. Les phases d'apprentissage et d'inférence, c'est-à-dire lorsqu'un modèle applique ses connaissances pour répondre à une demande, entraînent une forte consommation d'énergie et d'eau et ont ainsi une incidence sur le climat, tandis que la production de matériel destiné à l'intelligence artificielle repose sur l'utilisation de terres rares, lesquelles sont souvent extraites dans des régions écologiquement sensibles de pays du Sud. De telles activités peuvent contribuer à la perte de la biodiversité, à l'insécurité hydrique et à l'augmentation des déchets d'équipements électriques et électroniques, indique le rapport du PNUE. Ces préoccupations sont partagées par la Québécoise Sacha Lucioni, une sommité mondiale en matière de recherche sur l'empreinte carbone de l'IA. Dans les dernières années, on a vu que le coût énergétique de l'IA monte et que cette énergie vient principalement de sources non renouvelables, alors c'est inquiétant. On a zéro transparence sur les vrais coûts pour la planète, a-t-elle déploré au sommet de Paris sur l'intelligence artificielle l'hiver dernier. Le problème commence à la base, dans les centres de données où se déroule l'entraînement et le déploiement des modèles d'IA grâce à des ordinateurs superpuissants, appelés GPU dans le jargon. L'énergie utilisée pendant ces millions d'heures d'entraînement cause des effets importants sur la planète. La lourdeur de ces systèmes nous amène un pas de plus vers la catastrophe, prévient Frédéric Bruno, chercheur associé à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Selon une étude de l'Université du Massachusetts, le processus de formation d'un seul modèle produit environ 625 000 livres de dioxyde de carbone, environ 283 500 kg, ce qui équivaut à presque 5 fois les émissions d'une voiture moyenne durant toute sa durée de vie. La complexité croissante des modèles et la fréquence des réentraînements ne font qu'amplifier l'empreinte carbone de l'IA générative. Remplacer les énergies fossiles par l'hydroélectricité diviserait par 100 le niveau de consommation requis. Or, ce n'est pas la tendance prise par l'industrie qui privilégie plutôt le gaz naturel ou le charbon. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs lancé un cri du cœur aux grands acteurs de l'IA avant la conférence de Belém sur les changements climatiques, COP30, l'automne dernier. En 2030, l'IA consommera autant d'électricité que le Japon aujourd'hui. J'appelle toutes les grandes entreprises technologiques à alimenter tous les centres de données avec de l'énergie renouvelable d'ici 2030, a-t-il plaidé. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, s'attend même à ce que la demande énergétique de cette industrie double dans les prochaines années. En 2024, les centres de données représentaient 1,5% de la consommation mondiale d'électricité, 415 TWh, selon un rapport de l'AIE publié en avril dernier. Ce chiffre devrait grimper à 3% d'ici 2030, 945 TWh, et pourrait même atteindre 1500 TWh, avance Shift Project, un groupe de réflexion français spécialisé sur cette question. La prévision de 945 TWh correspond à 1,5 fois la production totale d'électricité du Canada en 2023, 613 TWh, selon Statistique Canada. Google, Microsoft, OpenAI et d'autres géants du domaine de l'IA ont manifesté leur intérêt pour la technologie de l'énergie de fusion, qui combine deux noyaux atomiques légers pour en former un seul plus lourd, comme moyen d'alimenter leurs centres de données. Ce processus libère une énorme quantité d'énergie et est considérée comme une solution prometteuse au changement climatique provoqué par la combustion des énergies fossiles. Mais il est encore loin d'être accessible par rapport aux technologies propres actuelles, telles que l'éolien et le solaire. À l'eau, à l'aide. Avant la COP30, M. Guterres a aussi livré un plaidoyer à la défense de l'or bleu. Comme toutes les industries, elles doivent utiliser l'eau de façon durable, sans leur système de refroidissement, a-t-il exigé. Ce n'est cependant pas du tout la norme actuellement. Déjà, en 2023, l'AIE estimait que le secteur de l'IA utilisait 660 milliards de litres, soit plus que la quantité totale d'eau embouteillée consommée annuellement à l'échelle mondiale. L'Agence internationale de l'énergie a calculé que le refroidissement des parcs de serveurs accaparait à lui seul 373 milliards de litres. C'est la phase la plus gourmande en eau, loin devant les autres étapes essentielles que sont la production d'électricité, 140 milliards de litres, et la fabrication du matériel, 47 milliards de litres. Et tous ces chiffres ont bondi depuis 2 ans. Jusqu'à 19 millions de litres d'eau par jour peuvent être nécessaires pour faire fonctionner un grand centre de données, rapporte l'organisme indépendant Pew Research Center. C'est comme si chaque Canadien gaspillait quotidiennement un demi-litre d'eau pour alimenter un seul parc de serveurs. Le Québec en compte plus de 80 sur son territoire. En 2025, ceci demandait une puissance moyenne de pointe de 150 MW, soit à peine 0,375% de la capacité actuelle du réseau d'Hydro-Québec, qui est de 40 000 MW. Cette proportion est toutefois appelée à prendre de l'ampleur au fil des ans. La société d'État prévoit avoir besoin d'une puissance de 1100 MW en 2035, soit 7 fois plus qu'aujourd'hui, pour répondre à la demande grandissante, attribuable en partie à l'IA. La croissance incessante des applications d'IA générative inquiète M. Bruno, qui est aussi cofondateur du laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA. L'intelligence artificielle est désormais démocratisée. Tout le monde a ça dans sa poche et effectue des recherches sur tout et n'importe quoi. Il y a bien des gens qui s'en servent comme du moteur de recherche Google, qui a déjà un impact, mais là, chaque requête sur ces grands modèles de langage a un impact très, très important sur l'environnement, qui deviendra de plus en plus grand avec le temps. Il souligne qu'il existe des modèles plus frugaux, mais qu'ils ne sont pas les plus populaires. ChatGPT trône encore en tête de liste, mais il fait face à une concurrence grandissante de Gemini de Google, qui revendique plus de 650 millions d'utilisateurs, et d'autres applications comme Copilot de Microsoft. En plus, les modèles changent, alors il faut constamment les entraîner, rappelle M. Bruno. Ce sont des milliers d'ordinateurs qui roulent 24 heures sur 24 pendant des mois pour entraîner les modèles et ensuite, ils continuent de fonctionner sans arrêt. Ce sont donc des échelles sans commune mesure avec d'autres utilisations d'Internet. Besoin urgent de normes. La technologie est bien pratique, mais elle contribue à la crise climatique. Google ne s'en cache pas. Le géant de la recherche en ligne, qui a lancé en novembre son modèle Gemini 3, a reconnu récemment que l'explosion des besoins en matière d'IA compromettait ses efforts de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, GES, et qui sont plutôt en hausse de 48% en 5 ans. Google promet même d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, mais cet engagement semble de plus en plus voué à l'échec. Devant ces constats alarmants, le PNUE préconise l'adoption d'une approche équilibrée fondée sur des données probantes et alignées sur le pacte numérique mondial. Il juge qu'il y a un besoin urgent de normes reconnues au niveau international pour évaluer et réduire l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle tout au long de sa chaîne de valeur. En attendant, la sobriété s'impose. Réduire son utilisation de l'IA générative peut être une idée originale de résolution du nouvel an, mais il est probablement déjà trop tard. Les pratiques vont peut-être changer. On va peut-être l'utiliser différemment, mais c'est déjà intégré dans la vie quotidienne de plus en plus de personnes, observe M. Bruno. C'est un autre élément qui s'ajoute à la longue liste des impacts des technologies numériques sur l'environnement. C'était l'empreinte environnementale insoupçonnée de l'intelligence artificielle générative. Un texte de Sébastien Auger, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Nouveau.
Découverte des plus anciennes cellules fossilisées sur Terre. Un texte de Pauline Gravel, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir. Des cellules microbiennes datant de 3,45 milliards d'années ont été mises au jour dans des roches volcaniques d'Australie. Il ne s'agit pas seulement de simples traces de vie, mais bien des plus anciennes cellules fossilisées jamais découvertes à ce jour. La géologue Frances Westall, qui effectue ses recherches au Centre de biophysique moléculaire du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, à Orling, a mis 25 ans avant de faire reconnaître son exceptionnelle découverte par la communauté scientifique. Un article publié en septembre 2025 dans la revue Nature Astronomy en décrit les détails. Tout commence dans les montagnes du Pilbara, en Australie, durant l'été 2000. Madame Westall recherche des traces de vie dans des roches reconnues comme étant parmi les plus vieilles sur Terre, puisqu'elles datent de 3,45 milliards d'années. Lorsque, de retour au laboratoire, elle étudie les échantillons de ces roches au microscope électronique à balayage, elle remarque de petites grappes de structures globulaires microscopiques mesurant moins d'un micromètre. Pour la chercheuse, qui a déjà fossilisé artificiellement des colonies de bactéries, ces structures ressemblent à s'y méprendre à ce qu'elle avait obtenu en laboratoire. Mais lorsqu'elle publie un premier article en 2006 sur cette découverte, les spécialistes du domaine l'ignorent complètement. Plusieurs disaient que c'était des artefacts, le résultat d'une contamination récente ou des structures minérales, mais absolument pas des bactéries, relate-t-elle lors d'une entrevue par visioconférence. Mais si j'avais contaminé la surface de l'échantillon, les faisceaux du microscope électronique à balayage auraient détruit complètement la matière organique et les bactéries récentes. Et des dépôts de minéraux sont complètement différents d'une colonie de microbes, réplique-t-elle. En 2011, elle publie un second article dans lequel elle a ajouté ces nouvelles informations. L'article est encore une fois reçu avec scepticisme, voire ignoré. Quand des personnes ayant du pouvoir dans le domaine ne veulent pas croire quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y avait aussi le fait que j'étais une femme et une chercheuse indépendante. Donc, tout ça était très frustrant, confie-t-elle avec dépit. Alors j'en ai eu marre d'être ignorée. Une nouvelle technologie à la rescousse. Convaincue de l'authenticité de sa découverte, Frances Westall ne se laisse pas abattre. Lors d'une soutenance de thèse à l'Université de Newcastle en Angleterre, elle découvre le Cluster SIMS, une technique de spectrométrie de masse d'ions secondaires en cluster qui permet une analyse ultra fine de la composition de la surface d'un échantillon avec une sensibilité et une résolution très élevées. Il lui faudra toutefois quelques années pour adapter l'optique de cet instrument à la taille microscopique des cellules fossilisées avec le fabricant Ionoptica. Sa patience et sa volonté portent leurs fruits, car l'instrument lui permet finalement de détecter des molécules organiques à l'intérieur des bactéries fossiles. Ces molécules comprennent les éléments critiques pour la vie que sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, que les bactéries ont pu puiser dans l'eau de mer. Ces molécules sont dégradées et il en reste très peu, car elles ont subi les assauts du temps pendant 3,5 milliards d'années. L'état de dégradation nous dit qu'elles ne sont pas récentes, mais très anciennes, souligne Mme Westall. De plus, ces molécules organiques sont silicifiées, c'est-à-dire couvertes d'une croûte de silice. À l'époque où ces bactéries sont mortes, elles se sont retrouvées dans une eau de mer très riche en silice. Ce dernier a imprégné ces cellules et précipité à leur surface, ainsi qu'à celle de la matière organique qu'elles contenaient, un phénomène associé à la fossilisation de micro-organismes, précise-t-elle. De multiples indices ont donc permis à Frances Westall de faire enfin reconnaître son extraordinaire découverte par l'ensemble de la communauté scientifique après 25 ans de travail. Parmi ces indices, il y a la morphologie sphérique des cellules, dont certaines sont en division, les molécules organiques dégradées que contiennent ces cellules, le regroupement de ces cellules en colonies, le typique polymère microbien qui enveloppe les colonies et la distribution particulière de ces petites colonies qui se trouvent associées à un substrat volcanique. La Terre primitive était très volcanique. Ces colonies se trouvaient à la surface de graines volcaniques et les bactéries qui les composaient étaient chimiolithotrophes, c'est-à-dire qu'elles obtenaient leur énergie et des nutriments, en l'occurrence du fer, du nickel, du cobalt, nécessaires pour leur métabolisme des graines volcaniques par des réactions d'oxydoréduction, explique Mme Westall. Selon Dominique Papineau, chercheur à l'Institute for Deep Sea Science and Engineering à Sanya, en Chine, Mme Westall et les membres de son équipe ont présenté un dossier solide constitué d'une collection d'indices indépendants. Ils ont utilisé des techniques micro-analytiques très sophistiquées qui n'étaient pas disponibles il y a 25 ans et qui leur ont permis d'obtenir de nouvelles données qui enrichissent et corroborent celles qu'ils avaient déjà publiées auparavant. M. Papineau a également été particulièrement intéressé par la solidité de l'argumentaire présenté pour soutenir qu'il s'agissait de micro-organismes chimiolithotrophes. Pour Frances Westall, l'histoire ne se termine pas là. Elle est même l'élément de départ d'une autre recherche, celle de vie ailleurs dans le système solaire. Car les bactéries fossiles retrouvées en Australie sont probablement très semblables aux formes de vie primitives qui ont pu émerger sur Mars il y a 4 milliards d'années, alors que la Terre et la planète rouge présentaient de nombreuses similarités. Pour cette raison, l'Agence spatiale européenne a sollicité sa collaboration pour la mission ExoMars, qui a pour objectif de rechercher des formes de vie passées ou présentes sur cette planète. C'était « Découverte des plus anciennes cellules fossilisées sur Terre », un texte de Pauline Gravel, paru le 29 novembre 2025 dans Le Devoir.